Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI bien entendu et avec dans l'actualité du jour eh bien les Comores toujours en course pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, troisième de leur groupe derrière le Maroc et le Cameroun. Les Sélakantes croient même en leur destin qui pourrait les emmener vers leur première Coupe d'Afrique des Nations en brandissant le règlement et arguant du retrait du Cameroun comme pays organisateur. En tout cas, nous écouterons le manager général des Comores qui nous expliquera la démarche dans laquelle s'engage sa fédération. Saadi Benhamir, bonjour et merci d'être dans le studio Radio Foot International.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
On est loin de vos îles, mais on s'y intéresse évidemment dans Radio Foot. Nous évoquerons aussi Manchester United, toujours loin. Là, c'est du podium et même du Big Four ou du Big Five d'Angleterre. Un troisième match nul pour les hommes de José Mourinho, cette fois face aux Gunners d'Arsenal. Pourquoi son équipe n'arrive-t-elle pas à décoller cette saison ? River Boca, le match retour après un drôle de suspense et plusieurs reports pour la finale de la Copa Libertadores. Eh bien, les équipes argentines seront en Espagne, à Santiago Bernabéu. Elles sont d'ailleurs déjà en Espagne. Cette rencontre sur terrain neutre va-t-elle jouer en la défaveur des Millonarios de River Plate ? Même les joueurs de Boca trouvent ça bizarre et nous en parlerons. Alors nous en parlerons et bien notamment avec Karine Galli. Bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre consoeur de l'équipe, il y a aussi Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Eric Mamrud, bonjour.
Bonjour.
Hola.
Hola,
vous nous ferez l'argentin.
Entre autres.
Un salut aussi à tous nos confrères du Burundi qui sont passés nous rendre visite ici. Ils sont à Paris à l'invitation du ministère des Affaires étrangères et ils sont venus voir la préparation de Radio Foot. Radio Foot, justement, c'est parti.
Ben Bwana, Wakomor, Hawantipia, Wantipia, Wakomor, Bachemeziao, allez le faire,
c'est une musique qui vous dit quelque chose, j'imagine, Saadi Benhamir.
Oui, bien sûr, c'est une musique qui nous accompagne toujours quand on arrive au pays, avec la ferveur des supporters, et c'est toujours assez vibrant de l'écouter.
Oui, j'imagine que comme c'est un archipel, comme ce sont de petites îles, c'est facile finalement pour les supporters de croiser leurs idoles quand il y a les jours de match.
Oui, mais bon, on se place pas comme des idoles, hein, on se place essentiellement comme étant des ambassadeurs. Je pense que les véritables héros, ce sont ces personnes là qui se lèvent tous les matins et qui partent aussi bien à que dans les champs pour essayer de subvenir à leurs besoins. Nous, on est simplement leur ambassadeur et on essaie de le représenter au mieux.
En tout cas, c'était une victoire. Hein. On entendait allez les verts, puisque c'est la couleur du maillot de l'équipe nationale. Victoire dans le stade de Moroni, c'était contre le Malawi. Une victoire qui a enflammé eh bien, les commentateurs et le public, on l'entendait, et surtout redonné de l'espoir aux joueurs. Ils restent en course pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en occupant la troisième place d'un groupe où le Maroc est pour l'instant déjà qualifié et le Cameroun vous devance. D'ailleurs, eh bien, a priori, les chances des Comores se joueront à Yaoundé. Ça sera la dernière journée au mois de mars, la sixième des groupes et ça sera justement contre le Cameroun. Cependant, vous, donc manager général des Sélakantes, de cette équipe nationale des Comores, vous avez quand même une toute autre analyse de cette situation puisque le Cameroun vient d'être dessaisi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça a dit, Benhamir, vous pouvez nous expliquer la position justement de votre fédération ?
Oui, c'est vrai que vous le disiez à l'instant qu'il y a un match capital qui va se jouer sur le terrain en mars prochain, mais avant ce match sur le terrain, il y a un match, on va dire, au niveau réglementaire, au niveau administratif, puisque le Cameroun est éliminé, et, enfin, la CAF vient de retirer l'organisation au Cameroun, et selon les règles rassemblement, si on lit l'article 92, il est clair que celui, l'équipe, je vais vous le lire, hein, je vais, ça prend une phrase.
Ou Eric, là ici, Eric, vous voulez...
Il y a plusieurs alinéas, oui. Alors je crois que...
C'est la première alinéa, voilà. Avant les alinéas, c'est si un pays qui a obtenu l'organisation du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations se désiste ou se fait retirer l'organisation, il lui sera infligé, outre les sanctions disciplinaires, une amende selon le barème suivant. Et c'est là où il y a les barèmes qui vont en fonction du...
Voilà, une amende de $500,000, mais surtout la suspension à la prochaine édition de la CAN, sans tenir compte de l'édition concernée. Alors c'est une expression un petit peu ambiguë, on ne sait pas si c'est l'édition, en l'occurrence celle-ci, ou la prochaine qui aura lieu en 2021. En tout cas, vous vous demandez à ce que d'ores et déjà le Cameroun soit hors course pour la CAN 2019.
Non, on demande que les règlements soient appliqués. Si on regarde justement ce qui s'est passé avant, on prend l'exemple de 2015, le Maroc devait organiser la CAN. Le Maroc n'a pas organisé la CAN et le Maroc n'a pas participé à l'édition
de 2015 en Guinée équatoriale, remplacé par la Guinée équatoriale qui était le pays organisateur.
Et l'année dernière, la CHAN, qui est le petit frère de la CAN, c'est le Kenya qui devait organiser la CHAN. Il y a eu pareil une inspection de la CAF qui a dessaisi le Kenya et donc le Kenya n'a pas participé. Et si on va encore plus loin,
ça s'est passé au Maroc et le Maroc jouait.
Et c'est le Maroc qui a organisé la CAN. Et un autre exemple, c'est Madagascar qui devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations U17. Pareil, pour problème d'infrastructure, le Madagascar n'a pas organisé la compétition et Madagascar n'a pas participé. Donc la logique voudrait que le Cameroun étant dessaisi, éliminé de cette compétition, le Cameroun ne participe pas. Là, c'est pas Benamir qui le dit.
C'est que l'équipe nationale en question participe aux éliminatoires. Alors que pour les autres compétitions dont vous faites allusion, l'équipe était qualifiée d'office en tant que pérennisateur.
Oui, mais
ils participent en même temps, donc ça peut être un peu ambigu là.
Non, il n'y a pas d'ambiguïté dans le texte. Il n'y a pas pour l'instant ni en termes de la personne l'équipe qui participe ou ne participe pas. Aujourd'hui, en tant que pays organisateur, ils avaient devoir de pouvoir organiser la CAN. Ils ont participé pour justement être dans une compétition, mais rien ne précise que si l'équipe participait aux éliminatoires devait être automatiquement repêchée.
Donc ça veut dire que si le Cameroun n'était pas là, ce n'est plus qu'un groupe à trois avec le Maroc, les Comores et le Malawi et ça vous offrirait une belle opportunité de participer à votre première aventure dans une Coupe d'Afrique des Nations.
Exactement, si finale il y a, en réalité la finale devrait se jouer entre les Comores et le Malawi.
C'est ça, parce qu'en fait... Bon, il faudra enlever les résultats des matchs face au Cameroun. En fait, on est d'accord, on fait un groupe avec les trois équipes. Et à ce moment-là, le Maroc compterait 7 points, vous, les Comoriens, 4, et le Malawi, 3 points. Donc, effectivement, vous n'êtes pas en même temps assuré de la deuxième place qualificative. Et ça se jouait lors de la dernière journée, en fait, lors du match Malawi-Maroc, puisque vous n'auriez pas de points à jouer au Cameroun, puisque ce match ne compterait pas. Donc, il ne faudrait pas... que le Malawi fasse match nul face au Maroc, puisque sinon vous seriez à égalité de points, et ça, à ce moment-là, ça se jouera à la différence de but particulière. Et là, il y a eu défaite 1-0 pour vous au Malawi, et victoire 2-1 pour vous à domicile, donc là, vous êtes perdant à la différence de but.
Il y a eu une autre lecture aussi, c'est les textes qui le disent, c'est-à-dire que si l'équipe a participé à la première phase des qualificatifs, c'est-à-dire que le Cameroun a fait tous les trois équipes, il lui manquait un match, théoriquement, le dernier match devrait être joué. Et le résultat ne prendra en compte que par rapport à nous. Le Cameroun aura ses points et sera comptabilisé par rapport aux points FIFA. Ça serait comme un match amical pour eux. Mais il ne serait pas comptabilisé. Le Cameroun, quelle que soit sa victoire ou sa non-victoire, la position du Cameroun ne serait pas comptabilisée. C'est-à-dire que le match du mois de mars pourrait avoir quand même lieu. Ouais. Et le Cameroun, à ce moment-là, si avait un résultat positif face à nous, aurait le résultat, le classement FIFA, les points...
Oui, pour ce qui est des points du classement...
Exactement, mais son classement final n'aurait pas d'incidence. Et d'ailleurs, certains vont me dire, ouais, mais à ce moment-là, ils savent très bien que c'est un match amical. Mais tous les matchs que le Cameroun a joué, c'était des matchs amicaux. Dans leur tête. Contre nous, c'était des matchs amicaux. Contre le Maroc, c'était match amical. Contre le Malawi, c'était match amical. Ça ne changerait rien. Et ces points, et eux, ces points, son classement, même si le Cameroun était classé dernier du groupe, le Cameroun était quand même qualifié en tant que pays organisateur. Et ces points, avec contre les 16 équipes là sont comptabilisés au classement FIFA. Donc il y a deux lectures en fait qu'on peut avoir à ce niveau-là, mais nous la lecture la plus importante qu'on voudrait que aussi bien au niveau des médias qu'au niveau de la CAF qu'au niveau des instances, c'est au niveau du règlement. Je pense qu'un règlement a été établi pour tout le monde, pour que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas ce règlement-là, puisqu'on a l'impression que finalement, on a retiré la CAN au Cameroun, mais qu'il y ait des faveurs qu'on voudrait faire au Cameroun pour justement faire en sorte que la colère des Camerounais soit moins importante.
Saadi, Benamir, justement, comment compte procéder votre fédération d'ici le mois de mars? Est-ce que vous allez écrire à la CAF, à la Confédération africaine de football? Est-ce que vous allez écrire à la FIFA? Est-ce que vous allez recourir au tribunal arbitral du sport, au TAS? Est-ce que vous avez déjà une démarche administrative, puisque vous dites que pour l'instant, c'est là aussi que se place votre dispute?
Moi, j'ai eu mon président pas plus tard que ce matin. On a eu un échange à ce niveau-là. Et il m'avait déjà informé qu'il avait saisi la CAF. Il avait écrit un courrier justement pour demander des éclaircissements. C'est la première démarche à avoir. Il a écrit pour demander des éclaircissements sur ça.
Sur
donc
ce qui se passe.
On n'a toujours pas de réponse, mais c'est la démarche. Nous, on est dans une démarche où on veut que les textes soient appliqués, en tout cas qu'on nous explique la démarche à suivre. On ne veut pas attendre jusqu'au mois de mars, puisqu'il y a avant tout, il y a des règlements. De même, je vous rappelle que contre le match contre le Maroc au match aller, on s'est senti, en tout cas nous, on a senti une injustice. La fédération a saisi la CAF à ce niveau-là.
Il n'y avait pas eu de pénalty que vous estimiez en votre faveur à la 96e ou 97e minute.
Tout à fait. C'est surtout le temps réglementaire qui était assez long eu égard au match lui-même, et qu'on voudrait justement que. Et je pense que le Maroc n'avait pas besoin de l'assistance de l'arbitrage pour gagner contre les Comores, mais jusqu'à ce jour, la CAF aussi n'a toujours pas répondu sur cette question-là. Donc oui, là, on a une démarche, on va dire, la fédération a une démarche, la même démarche que celle que je vous présente aujourd'hui, c'est celle de demander à ce que la CAF puisse éclaircir ce point-là et appliquer les règles.
Il y a deux problèmes qui se lèvent dans ce que vous dites. D'abord, c'est le fait qu'il y a un flou autour du règlement et que la CAF ne se soit pas encore expliquée là-dessus. Puis c'est surtout le timing. Parce qu'en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est la date à laquelle la CAF retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, alors qu'on sait pertinemment que la décision est prise il y a déjà plusieurs mois et que cette dernière visite là des structures machin, voilà, c'est du folklore, c'est de la mise en scène. On sait très bien qu'on va la retirer. Donc en gros, c'est le délai.
En tout cas, ça a été annoncé il y a une semaine.
Voilà le timing. Voilà exactement le timing pose problème. Voilà, c'est surtout ça, et c'est ce qui met aussi les Comores dans
des difficultés. Ça les empêche pas de clarifier la situation. Moi, je vois pas le rapport.
Non, mais je suis bien d'accord. Ouais. Mais quand, c'est ce que je te dis.
Là, ils doivent se prononcer. Au bout d'une semaine, ils sont pas capables de se prononcer sur le Cameroun qualifié.
C'est la CAF
ou pas.
Aussi. Bruno, je veux dire,
c'est une compétition,
donné,
c'est normal.
Si c'est annoncé, il y a déjà 4, 5, 6 mois, comme tout le monde le savait, comme ça aurait dû être fait, ça laissait quand même une marge de manœuvre supplémentaire et plus longue à la fédération comorienne pour entrer en contact avec eux, pour avoir des éclaircissements. Là, au bout d'une semaine, je suis d'accord avec toi pour dire que ça aurait dû être fait, mais c'est la CAF.
Alors justement, on reçoit demain le président de la fédération, de la Confédération africaine de football, le président Hamad. Si vous aviez une question précise à lui poser, qu'est-ce que vous lui demanderiez, Saadi Benamir?
Déjà, j'ai écouté sa prestation lors d'une émission dans un média panafricain, où lui-même il disait vouloir rompre avec les méthodes entre guillemets africaines et qu'il lutte contre tout ce qui est forme d'injustice. Et donc moi, si je l'avais devant moi, déjà d'une part je le féliciterai d'avoir en si peu de temps mené des changements qui permettent aux petites fédérations comme les nôtres de pouvoir jouer cette CAN. Mais je demanderai aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous préciser justement, est-ce qu'il peut être précis sur ce point du règlement qui nous permette justement aujourd'hui de préparer sereinement cette rencontre du mois de mars, ou en tout cas d'être fixé et de sortir de ce flou, on va dire, où on se trouve.
C'est-à-dire, est-ce que le Cameroun est exclu ou pas de la prochaine CAN, c'est ça?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Éric Mamrut.
Déjà, si le Comore est tout proche de se qualifier pour une CAN, grâce au tapis vert ou pas, c'est notamment grâce à leur bon résultat, quand même, de leur progression ces dernières années, des Sélacantes qui étaient eh bien, largué au classement FIFA il y a quelques années, qui a remonté la pente ces derniers temps, et notamment on voit dans ce groupe éliminatoire
bien 148e hein, au dernier classement
ils
FIFA.
Ils sont 143e, moi j'ai vu au dernier, mais enfin peu importe, ils ont été 130e l'an dernier en 2017. Bon, alors, c'est loin évidemment, mais on voit quand même qu'ils font match nul à domicile face au Maroc, ils ne perdent que d'un but à la dernière seconde là-bas au Maroc, ils ont tenu en échec le Cameroun. En fait, vous avez perdu pas mal de matchs peut-être ces derniers temps, mais à chaque fois sur un but, notamment lors des éliminatoires de la CAN précédente. Là, il y a effectivement une progression. Là, est-ce qu'on pourrait donner des explications sur cette bonne vitalité du football comorien?
Déjà, ça fait 4 ans qu'on travaille avec l'arrivée du coach Amir Abdou, que je suis parti chercher à bonne entente. Donc, c'est depuis son arrivée, notre premier match, qui était déjà une surprise, c'était contre les vice-champions d'Afrique de l'époque, qui était le Burkina Faso. Donc, notre premier match amical à l'ère d'Amir Abdou, c'était à Martigues, on a fait match nul, un partout. Donc, c'est à ce moment-là que on a commencé cette aventure qui est née il y a 4 ans. Et en 4 ans, les joueurs n'ont pas beaucoup évolué. C'est un groupe qui est en train de mûrir, qui vit bien.
C'est beaucoup de joueurs nés en France.
Des joueurs qui sont nés en France, qui ont été formés en France.
Dans la région de Marseille, hein, comme vous?
Pas tous, mais beaucoup, oui, qui viennent de la région de Marseille, comme moi, comme le coach aussi, hein, qui a grandi à Marseille. Mais c'est vrai que c'est un groupe aujourd'hui qui vit bien. On a beaucoup de joueurs qui ont connu le haut niveau, qui connaissent le haut niveau. Je parle notamment de Kassim Abdallah, qui a joué à l'Olympique de Marseille ou à Evian Tonon, de Rafidine Abdoullah, qui a aussi joué à l'Olympique de Marseille et à Rennes, de Djamel Bakar, qui a été formé à Monaco, qui
Ali
a joué à Montpellier.
Amada, tout ça.
Ali Amada et aujourd'hui Ben Fardou qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui joue à la Ligue des Champions.
Bientôt contre le Paris Saint-Germain.
Qui a joué avant ça à Amiens avant de partir en Grèce et de rebondir aujourd'hui à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on a Youssouf Mchangama qui joue aujourd'hui en Ligue 2 à Grenoble. Donc on a un vivier de joueurs assez important et on a 3 joueurs aussi aujourd'hui de Ligue 1 que nous voulons aller chercher, hein, que ce soit Miziane Maolida à Nice, que ce soit Wesley Saïd à Rennes, des attaquants, ou le jeune Youssouf qui joue à Bordeaux, qui sont en Ligue 1, mais qui sont aussi à la porte de l'équipe de France. Nous sommes aujourd'hui en train de construire un groupe, une ossature, pour avoir un peu comme la plupart des équipes africaines ou même mondiales, avoir des joueurs capables d'aller titiller les équipes les plus
importantes.
C'est-à-dire
qu'avant, rien n'était fait véritablement pour promouvoir le football comorien?
Surtout que c'est une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens, et là il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'ancien président Salim Tourki, que j'ai rencontré, parce que moi à la base j'ai une formation de journaliste, que j'ai rencontré lors d'une émission journalistique, et pour faire la promotion de l'équipe, on s'est convenu que j'allais pouvoir suivre les Sélacantes pour justement les promouvoir, et à ce moment-là on a eu un échange, il m'a donné les fonctions de manager, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé de mettre en place. Vous savez, ici en France, il y a un célèbre président qui s'appelle De Gaulle, qui disait: quand on n'a pas du pétrole, il faut avoir des idées. À ce moment-là, on a développé le maximum d'idées, avec le peu de moyens qu'on avait, pour justement à la fois séduire les joueurs expatriés qui jouaient à un certain niveau, et pour arriver au niveau que nous sommes aujourd'hui. Moi, je voudrais rappeler un truc, que le président du Malawi, la dernière fois, enfin, contre le Malawi, on a gagné 2-1, et j'ai pas apprécié la remarque qui a été faite par le président du Malawi, par un tuteur qui disait: on n'a pas joué contre les Comores, on a joué contre des Français. Alors que nos joueurs sont des joueurs bien sûr d'origine comorienne, avec des parents comoriens, qui soient formés en France ou qui jouent en France. Aujourd'hui, citez-moi un des grands pays, y compris même le Brésil, des joueurs brésiliens ou camerounais, beaucoup qui jouent dans leur pays d'origine. Sachant qu'aujourd'hui, si en Afrique il y a la CHAN, c'est bien parce que on connaît ce phénomène, que la plupart des joueurs africains aujourd'hui sont obligés de partir dans des pays européens pour pouvoir s'aguerrir et devenir d'avoir des joueurs de haut niveau.
Ce qui est drôle, c'est que pendant la Coupe du Monde, on a dit: tiens, la France, elle a été championne du monde grâce aux Africains. Donc, comme quoi, une petite corrélation.
Pas forcément.
Juste une dernière petite chose. Ouais. Vous dites qu'on n'a pas beaucoup de pétrole, mais on a des idées. Enfin, vous citiez De Gaulle. Là, il vous faudra peut-être avoir une très très bonne idée pour garder votre sélectionneur Amir Abdou, parce qu'il est arrivé au terme de son contrat. Là, il est plus sous contrat avec vous. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, il est plus sous contrat. Son contrat allait jusqu'au 30 novembre. Donc, son contrat est terminé. Actuellement, comme je l'ai dit dernièrement, nous sommes dans les temps additionnels. Le match n'est pas encore terminé. Il y a des discussions de part et d'autre entre le président, le coach, mais même aussi on essaie d'associer des partenaires comme l'État.
C'est quoi le problème?
Mais le problème, c'est un problème aujourd'hui économique. économique. Vous savez très bien les tarifs, enfin ce que peut coûter un sélectionneur au niveau international. Et aujourd'hui, Amir Abdou acquiert un niveau international. D'ailleurs, on l'a cité dernièrement dans un article du Monde. Et qu'aujourd'hui, notre petite fédération n'a peut-être pas encore les moyens ni les partenaires solides pour pouvoir peut-être subvenir aux émuliments du sélectionneur et qu'il a besoin de trouver des partenaires. Mais je pense qu'on aurait dû régler ce problème-là bien plus tôt. Amir est parti chercher cette victoire contre le Malawi qui permet aujourd'hui à ce que les supporters tous réclament son maintien à la tête des Sélakan, parce qu'il n'a pas encore fini son aventure qu'il a commencé depuis 4 ans. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à une entente dans les prochains jours.
Mais c'est lui qui a demandé un peu plus, quoi, ou alors c'est que il n'y a plus de sous dans les caisses.
Ça, je ne peux pas répondre s'il n'y a plus de sous dans les caisses. Je ne suis pas dans les secrets du comité exécutif.
Il a demandé une augmentation de salaire, du coup.
Son salaire n'a pas excessivement augmenté par rapport au salaire qu'il a actuellement. Et je pense qu'il devrait normalement toucher beaucoup plus que ça. Je pense que c'est le sélectionneur africain le plus mal payé d'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, il a demandé une revalorisation minime de son salaire, mais surtout, il a demandé aussi comme tout sélectionneur ou joueur, des primes sur des objectifs. Mais c'est pas n'importe quel objectif, c'est des objectifs élevés, c'est des qualifications à la CAN, des qualifications à la Coupe du Monde. Mais au niveau de son salaire, je pense que c'est le minimum syndical qu'on peut proposer aujourd'hui à un sélectionneur, et même le minimum syndical, je pense que n'est pas assez. Mais eu regard à ses origines et à son patriotisme, je pense qu'il se contente de ce qu'il demande aujourd'hui. Mais je pense que aujourd'hui, aucun sélectionneur africain n'est payé ce que Amir Abdou est payé.
Il sera là s'il y a le match au Cameroun.
J'espère qu'il aura signé bien avant ça, et on l'espère tous.
D'accord. Merci beaucoup, Saadi Benhamir, d'avoir participé à ce Radio Foot. Et demain, eh bien, nous en ferons état dans l'émission spéciale que nous aurons avec le président de la fédération. Mais restez avec nous, on va continuer évidemment à parler football avec tous nos invités.
And it's gone in. Arsenal were thinking about asking for the penalty. Better than that, they've got a goal. Manchester United 1, Arsenal 2. And Lacazette is back up to his feet. As Lukaku goes in at the other end, and Lingard is in at the other end. Straight from kickoff.
Pas de vainqueur ni donc de vaincu hier soir à Old Trafford. La confrontation Red Devils et Gunners s'est achevée sur le score de 2-2 et les joueurs d'Arsenal, eh bien, peut-être qu'ils peuvent s'en vouloir hein, parce qu'ils avaient, ils n'ont surtout pas tenu leur avance lorsque c'était à 2-1 en leur faveur. Égalisation donc. Mais un point, c'est sans doute bon à prendre pour ce qui est des Gunners. Par contre, Manchester United est sur une très mauvaise pente. Enfin, en tout cas, pas une bonne pente, on va dire.
C'est pas une bonne période. En championnat, ils sont sur 4 matchs sans victoire, une défaite et 3 résultats nuls. En fait, leur seule victoire récente, eh bien, c'était en Ligue des Champions face à Berne sur le petit score de 1-0.
Bruno Constant, justement, cette équipe de Manchester United, elle a du mal à revenir ou à venir vers le podium. Alors, vers le podium, si je ne me trompe pas, elle n'y a pas été depuis le début de la saison, ou peut-être la première ou la deuxième journée. Voilà.
On est très loin. Là.
On en est à la 15e, ouais, ils sont 8e.
8 points de Chelsea qui est 4e.
Exactement. Et surtout, c'est une équipe, on a l'impression de voir plutôt qu'elle n'arrive pas finalement à ce qu'elle devrait, on dirait, vu l'effectif.
Ben non, parce que tout simplement, parce que le vestiaire est quasiment au bord de l'implosion. Il y a toujours autant de problèmes avec José Mourinho. Le dernier en date, c'était les propos qui sont sortis, qu'il aurait tenu devant le vestiaire sur Paul Pogba après le match.
Qui n'a pas joué hier en tant que titulaire. Hein.
Où il avait critiqué déjà Pogba sans le nommer devant les médias et devant ses joueurs. Il a traité de virus, qu'il était le virus de l'équipe, qui manquait de respect à ses joueurs, aux supporters. Et c'est un problème qui traîne depuis plusieurs mois, depuis même quasiment presque un an maintenant. Et ni Manchester United.
On a l'impression d'une histoire un peu je t'aime moi non plus entre deux. Hein.
Ouais, mais c'est de pire en pire. Et surtout, ça pèse énormément sur le vestiaire de United parce que Pogba est aimé du vestiaire. Et que là, il y a un vrai souci. Et qu'on voit surtout au-delà de ça, les problèmes de Mourinho, c'est que son équipe évolue pas depuis un an, même depuis quelques mois, parce qu'ils ont fini deuxième en mai dernier. Et là, ils sont à l'agonie totale. Ils sont à 18 points du leader Manchester City, dont ils devaient se rapprocher pour éventuellement concurrencer dans la course au titre. Il y a des stats qui sont sortis il y a pas très longtemps par rapport à la saison passée, où Manchester United est par exemple la 19e équipe de Premier League sur la distance parcourue par match. C'est la 20e au niveau des sprints à haute intensité. Et c'est des valeurs qui ont beaucoup d'importance. Ça montre l'attitude des joueurs par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Et il y a très peu d'intensité à United. Il y a très peu d'investissement. Et même si la petite exception, c'était quand même malgré tout hier, c'est qu'à Old Trafford, ça a vibré encore un petit peu. Il y a eu un petit sursaut, notamment en début de match. Et en cours de match, ils sont revenus deux fois. Ça veut dire que cette équipe n'est pas morte, mais elle est tellement loin des autres que c'est très compliqué ce qui se passe à United.
Mais ce qui est paradoxal, c'est par rapport donc aux infos qui sont sorties par le Times, c'est que en fait il y a de la vérité des deux côtés dans les propos qu'aurait tenu Mourinho, mais aussi dans la réponse que Pogba aurait donnée à Mourinho. C'est qu'effectivement on est extrêmement déçu de ce que propose Manchester United sous Mourinho et de ce que Mourinho veut proposer sur le terrain, parce que c'est extrêmement restrictif et ça devrait être beaucoup plus joueur ambitieux par rapport aux joueurs qu'ils ont. Et à côté de ça, on peut pas non plus dédouaner le rôle de Pogba qui bien absolument souvent pas, est insuffisant, ouais. Et
qui est très inégal
et qui est très irrégulier même au cours d'un match. Donc en fait il y a de la vérité des deux côtés, c'est ça le problème. C'est que le problème n'est pas que Mourinho ou que Pogba et les joueurs, c'est que il y a vraiment des problèmes des deux côtés par rapport à des performances qui sont quand même hallucinantes. Alexis Sanchez, c'est l'ombre de lui-même depuis quasiment qu'il est arrivé.
Du Pogba, coup il est blessé.
Pogba, oui, pour un tel joueur en tout cas comme on nous le présente, il devrait être bien meilleur. Donc les torts sont partagés. Virer Mourinho, ça n'arrangera pas tout non plus.
Non, mais juste pour rebondir là-dessus, Lukaku était sur le banc hier, il est méconnaissable. Tous ces joueurs-là, Sanchez, Lukaku, Pogba, ils ont été recrutés par qui?
Par Mourinho.
Mais
justement, peut-être aussi, alors Pogba est peut-être un peu l'homme-lige ou le révélateur du malaise, mais on le sait, enfin on a bien vu Didier Deschamps, Naïm Moniol, c'est un joueur qui a aussi besoin plus d'être motivé que d'être taclé, et en plus en public, comme le fait si souvent Mourinho. Bah,
ça c'est la stratégie Mourinho. Mourinho, depuis des années, a
toujours...
Il voulait
partir d'ailleurs Pogba durant l'été, enfin ouais. C'est ce qu'on faisait dire
en tout cas. Bien sûr, mais Mourinho a toujours eu cette communication de charger ses joueurs quand il le voulait, que ce soit à Manchester ou ailleurs. Et
mais
c'est
ça
vrai
marche
que
de moins en moins, non?
Si, oui, ça marche de moins en moins, mais il faut dire que les résultats ne suivent pas, en fait. C'est aussi ça le problème. Je suis d'accord pour dire que Pogba est irrégulier, c'est un fait. Bon, alors, il y a une part de sa responsabilité, évidemment, mais quand, par exemple, vous prenez l'équipe d'hier, vous avez 7-8 joueurs à vocation défensive. Quand vous avez besoin de gagner face à une équipe comme Arsenal, qui est une belle équipe, mais qui est pas non plus, qui n'est pas encore revenu dans le top gratin des équipes anglaises. Vous devez gagner, vous devez marquer des buts, vous alignez, vous êtes à domicile et vous alignez 7-8 joueurs à vocation défensive. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ces matchs-là, vous pourrez pas les gagner. Surtout avec une défense expérimentale, des mecs qui ont jamais joué, d'autres qui reviennent, bref. Donc, Pogba n'a pas joué évidemment, mais demander à des joueurs de se transcender. Les insulter, les critiquer, les dire ouais c'est leur faute, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Quand vous êtes dans une équipe qui ne produit aucun jeu, qui joue dans sa moitié de terrain, c'est pas possible. On l'a déjà expliqué 50 fois, ce que Manchester propose, c'est de la faute à Mourinho. Je veux bien que Pogba soit irrégulier et que ce soit pas le seul, je veux bien que des joueurs marquent pas dans les gros matchs, mais il faudrait encore que l'équipe propose du jeu pour que ça se passe.
Et évolue peut-être dans un environnement un peu plus sain. Que peut-il arriver du côté de Manchester United? Il y a eu un moment en début de saison où on se posait des questions autour de Mourinho. Finalement, on se pose moins de questions, mais les résultats ne suivent pas. Et puis, Karine disait, finalement, c'est si les torts sont partagés, où est-ce qu'on peut aller pour les dirigeants, en tout cas, qui doivent un peu se désoler.
On va vers la séparation de l'un ou de l'autre. Et celui qui a le plus de chances de rester, c'est quand même Pogba, parce qu'il a une valeur marchande, parce qu'il a une valeur marketing, et que les dirigeants se rendent compte de plus en plus que Mourinho n'ira pas, il ira au bout sans doute de la saison, sans doute.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
On ne sait pas vraiment encore ce que cherche Mourinho.
Pas le virer, ce mec-là.
Beaucoup de voix disent que Mourinho cherche à se faire virer, tout simplement. Mais les dirigeants, ils sont obligés de constater les dégâts. Ils sont prisonniers de leur choix. Ils ont prolongé Mourinho il y a quelques mois, donc ils peuvent pas non plus changer comme ça de fusil d'épaule. Et là, l'objectif, la priorité aujourd'hui, c'est de grignoter des points jusqu'à la fin de l'année pour se rapprocher du top 4. C'est se qualifier pour la Ligue des Champions, l'objectif aujourd'hui.
Qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière où ils terminent deuxième et cette année où ils sont, pour l'instant, encore à mi-parcours pratiquement et à la dérive?
Il y a eu un été explosif à United, notamment entre Ed Woodward, directeur exécutif de United, en charge du recrutement, et Mourinho, qui s'est plaint sans arrêt durant la campagne estivale du recrutement, des joueurs qu'on lui avait refusés, des manques de moyens qu'il avait. Là, la dernière sortie, c'était il estimait que toutes les équipes avaient progressé sauf la sienne. Ça, on est d'accord. On est content qu'il l'admette. Le problème, c'est que lui, il continue de dépenser de l'argent. Et il veut continuer à dépenser de l'argent, et parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on attend davantage, et notamment dans un club comme United, on attend un vrai projet de jeu. Aujourd'hui, il n'y en a pas à United. Ça fait 2 ans et demi qu'il est à United. On ne sait toujours pas comment joue cette équipe. Si ce n'est les vieilles ficelles de Mourinho qui défend devant sa surface.
C'est vrai qu'on a l'impression un peu de se répéter. Hier, les Blues sont descendus du podium. Ils sont descendus, bon, c'est pas très bas. Ils ont perdu un siège et une marche. C'est bien ça, Eric.
Bah, ils sont toujours quatrième à de longueur de Tottenham, qui leur est passé devant. Mais bon, la surprise, c'est de perdre à Wolverhampton 2-1. Wolverhampton qui maintenant est 12e. Mais en fait, depuis quelques temps, Chelsea peine à l'extérieur. C'est leur deuxième défaite hors de leur base. Alors que chez eux, ça va. Ils en sont à 2 victoires d'affilée.
Et ce week-end, c'est le gros morceau. Reviendront-ils sur le podium et infligeront-ils, qui sait, aux Citizens leur première défaite de la saison, puisque eux, comme Liverpool, restent invaincus. Écoutons Maurizio Sarri évoquer Manchester City. Il va falloir vraiment motiver ses troupes.
As I said before, Manchester City is in another category.
Comme je l'ai dit précédemment, Manchester City actuellement est dans une autre catégorie. Nous devons jouer et nous battre pour être dans les 4 premiers. Il faut se battre à chaque fois pour obtenir des points. Et pour moi, Manchester City, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe.
For me, City at the moment is the best team in Europe.
Alors, ils sont les meilleurs d'Europe, nous dit-il, Tsari.
C'est vrai que c'est pas mal. Depuis la défaite à Lyon le 19 septembre, et ben, ils en sont à 16 matchs sans défaite, 14 victoires et 2 résultats nuls.
Une moyenne de buts marqués, à peu près 3 et quelques. Mmh. Ils sont au-dessus. Franchement, ils sont au-dessus. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'ils étaient déjà tellement au-dessus la saison passée que là, ils imposent un rythme infernal à leurs concurrents. Et la seule équipe qui arrive encore à s'accrocher, c'est Liverpool. Mais ça tient vraiment à un fil. Depuis quelques journées, Liverpool, ils ont vraiment du mal.
Quand tu sais qu'ils se sont passés de De Bruyne quand même pendant combien de temps? 7-8 semaines en début de saison. Ouais. Ils ont des joueurs fabuleux. Faut être honnête. Moi, il y a un joueur qui me bluffe dans cette équipe, c'est Riyad Mahrez. Quand il est arrivé, j'étais extrêmement sceptique. Je me suis dit, il va pas tenir, parce que ce qu'on lui demandait à Manchester City, on lui avait pas demandé à Leicester, on lui avait pas demandé en France. Voir la dimension qu'il a pris, les efforts défensifs qu'il fait,
ça. De plus en plus titulaire.
De plus en plus titulaire.
Ah, mais les mêmes. Après, là, il profite aussi des absences, mais
il profite des absences. Ouais, il pourrait jouer et pas marquer, pas être décisif. Ouais. Il marque, il fait des passes D, il défend. Moi, je pense qu'il grappille du temps de jeu, qu'il grappille finalement sa place de titulaire, et c'est un petit peu le Bernardo Silva de cette saison. C'est-à-dire que l'année dernière, Bernardo Silva, il était pas titulaire, mais quand il jouait, c'était quasiment celui qui était le plus décisif, pas loin. Et Mahrez, c'est le Bernardo Silva de cette saison. Je trouve qu'il a pris une dimension qu'on n'attendait pas.
On parlait de Mourinho et l'influence de Mourinho sur ses joueurs cadres, c'est-à-dire que des joueurs qui progressent pas, et on voit toute la différence avec Guardiola. C'est que tous les joueurs qui passent entre les mains de Guardiola, ils atteignent un niveau. Kevin De Bruyne, c'est le principal exemple. Aguero a énormément progressé avec Guardiola. David Silva a totalement explosé. C'est qu'il est capable de les transcender, de les faire progresser tactiquement, ce que fait pas du tout Mourinho.
Karine, ce Chelsea-Manchester City, alors, c'est déjà cuit pour les Blues ou pas?
Mais jamais de la vie. Non, mais évidemment que Manchester City est au-dessus, mais vous l'avez dit, à Stamford Bridge, Chelsea est quand même solide, donc je vois pas une claque de la part des joueurs de Sarri. Après, City récupère quelques joueurs, mais il y a pas non plus d'inquiétude. Je me souviens qu'il y a quelques semaines,
leur invincibilité est...
Non, mais si j'avais à parier l'argent, évidemment, je parierais plus sur une victoire de City que de Chelsea. Mais City peut aussi parfois être moins flamboyant. On l'a vu notamment face à l'OL. L'OL jouait très haut, l'OL pressé. L'OL a aussi profité des absences de certains joueurs cadres de Manchester City. Et dans le contenu, leur match était très bon. Et Chelsea aussi a produit des très bons matchs, même s'ils seront outsiders chez eux.
Mais la différence, c'est que... Ah, pardon, allez-y.
Allez-y.
Non, la différence, c'est que Manchester City a un banc de touche quand même qui lui permet d'avoir une rotation et d'avoir tout le temps le même niveau. À Chelsea, quand ils ont un coup pompe physiquement, ce qui semble être un petit peu le cas, enfin, moi hier, j'ai été trouvé assez fatigué, on manque de jus. Bon, on voit pas bien qui peut prendre la relève, quoi.
Il leur faudra un vrai buteur cet hiver.
Et c'est ce qu'on verra durant le mercato. Mais pour l'instant, on va faire un petit détour par la Ligue 1.
Ah, approché par Bounassa, mais il a pris l'ascendant. Et François Le Texier a évidemment laissé l'avantage. Oh, quel centre derrière! Superbe centre à l'adresse de Gabriel Bosquilio pour le 3-2.
Et voilà les Canaries. Les Canaries qui se sont imposés hier chez eux dans un match incroyable qui a bien secoué la Beaujoire face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui donc s'est incliné sur le score de 3-2. Un homme, on va voir, qui est très en forme, c'est Emiliano Sala, l'Argentin, meilleur buteur ou co-meilleur buteur du championnat de France, au même niveau que Kylian Mbappé. Finalement, le travail paye.
Tu gagnes comme ça, hein, face à une équipe de Marseille, il faut le savourer. Ça m'a plu la manière. On a été mené au score deux fois. On a su revenir, on a montré le caractère. On a retrouvé notre jeu, notre bloc. Donc c'est que des plaisirs. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que le travail aujourd'hui paye. Donc c'est à moi de continuer pour encore aller plus haut.
Aller plus haut. Alors évidemment, Eric, cette équipe, alors grâce à, elle a évidemment un très bon buteur, mais
12 buts hein, cette saison, donc à égalité avec Mbappé, 9 depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić.
Mm-hmm. Exactement.
Bien, début octobre.
Voilà. Alors, est-ce que depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić, tout va
mieux?
Oui, parce qu'ils étaient dans la zone de relégation et là, tout d'un coup, évidemment, on les retrouve pratiquement au milieu de tableau. Les Canaries vont mieux.
Oui, oui, incontestablement. Alors, c'était Miguel Cardoso, on l'a presque déjà oublié, l'ancien entraîneur du FC Nantes. Il n'a pas duré effectivement très très longtemps, puisque quand il a été remercié, Nantes était avant-dernier de la Ligue 1 avec 6 points, une seule victoire en 8 matchs. Depuis, eh bien, Nantes est remonté au 12e rang du classement avec 20 points, soit 5 victoires, 2 nuls. Deux défaites, toutes compétitions confondues. Mais bon, quand ce Nantes perd, bah c'est souvent assez largement, à chaque fois 3-0. Mais bon, on peut parler d'un effet Vahid.
Alors, y a-t-il un effet Vahid selon vous, Karine? Et surtout, est-ce que on peut dire c'est grâce à coach Vahid, hein, on connaît le personnage volcanique et contagieux, on va dire, du côté de son énergie, ou est-ce qu'aussi c'est un nouveau souffle finalement du côté de Nantes?
Oui, alors moi j'entends qu'il y a un effet Vahid parce que les résultats effectivement sont bien meilleurs. Je pense que quand même Cardoso a été très vite plombé, notamment par Kita. Après,
le président du club, oui.
Voilà, quand on voit le contenu des matchs, j'étais notamment à Saint-Étienne vendredi soir.
Oh,
et là, pour le coup, Nantes est passé totalement à côté de son match et dans les grandes largeurs.
Défaite 3-0.
Vahid avait fait des choix avec des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste pour essayer de bloquer Cabella, pour essayer de bloquer Selnaes, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est beaucoup à l'énergie. Hier, bravo à eux, ils ont la capacité d'à chaque fois recoller au score quand Marseille mène. Mais je trouve que c'est plus une faillite marseillaise dans les grandes largeurs, là, pour le coup, qu'une démonstration nantaise. Ils ont des qualités et Vahid en fait partie, sauf que le problème, c'est que l'idée, c'est quand même de s'inscrire à long terme. Et à long terme, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, de toute façon. Donc, il va y avoir peut-être une fin de saison qui sera bonne avec une bonne place, mais vu que on ne va pas s'inscrire dans la durée avec Vahid, je trouve que c'est une perte de temps pour l'avancée de Nantes.
À Nantes, on change souvent d'entraîneur en même temps, hein. On n'est jamais dans la continuité.
Mais il y a un moment, si Nantes veut faire quelque chose et de redevenir peut-être européen un jour en étant sixième, parce qu'aujourd'hui souvent la sixième place en Ligue 1 et européenne, et pour être sixième, t'as pas besoin de proposer forcément du jeu exceptionnel. Ben, je pense pas que ça sera avec Vahid, donc oui, il y aura une belle période.
Ça serait peut-être pas Kita non plus, remarque. Hein.
Je pense que le problème, c'est plus le président que l'entraîneur. Je suis à moitié d'accord avec ce que dit Karine, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire depuis l'arrivée de Vahid, c'est que cette équipe, elle marque des buts. Il y avait eu
19 buts en 8 matchs.
Voilà, une constante, il y a une constante quand même à Nantes depuis le début de la saison, c'est qu'on s'ennuyait ferme. Moi, je suis d'accord pour dire que l'effectif est pas transcendant. Salah est bon, Rongi est bon, mais c'est pas un effectif de fou. Mais là, on voit quand même des buts, on voit du spectacle. Ils peuvent passer à travers de leur match, et quand ils perdent, ils prennent des claques, mais ça joue quand même vachement haut. On s'amuse quand même beaucoup plus en regardant Nantes aujourd'hui que quand on le regardait il y a deux mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a changé. Ça marque des buts.
Ça se ressent à la Beaujoire. L'ambiance hier était magnifique.
Il a fait la révolution sur le terrain. Il a sorti des mecs, il en a mis d'autres. Il a fait la révolution dans le vestiaire. Les types, comme disait Karine, ils bouffent à l'énergie. Ils courent partout, ils sont motivés. Ça fait plaisir. Après, je suis d'accord pour dire.
Ils sont revenus deux fois au score, hein, comme nous dit ça là.
Je suis d'accord pour dire que il n'y a pas un banc de touche extensible. Cet embelli-là, tant mieux pour eux, ils prennent des points, ils ont fait la moitié du maintien, t'es pas encore à la trêve, c'est très bien. Est-ce qu'ils le feront toute l'année? Je sais pas. S'ils n'y arrivent pas, qui sur le banc pourra remplacer un Salah s'il se blesse, par exemple, ou un Bouchia, un Rongier? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup plus qu'il y a deux mois. Après, le problème à Nantes, on le connaît, il vient pas du banc de touche, il vient du président, mais lui, il partira pas.
Bruno, un petit mot sur les Canaries.
Vaïd a fait du Vaïd, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'il remet de l'ordre dans la maison, il rassure un peu tout le monde, il est beaucoup moins volcanique, je trouve, que par les années précédentes. Moi, j'avais connu au PSG où c'était très, 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 très compliqué de discuter avec lui. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus calme. Et c'est quelqu'un qui est humainement très touchant, je trouve, qui est très sensible. Et j'espère qu'il va pouvoir amener un peu sa sensibilité et un peu de calme au FC Nantes, qui en a vraiment besoin. Mais après, je suis d'accord, je pense qu'ils tomberont pas non plus tous les week-ends face à, en l'occurrence, un milieu de semaine, face à des défenses aussi faibles que celles de l'OM. Mmh. Parce que hier, c'était surtout ça, quoi. C'était une faillite collective de l'OM.
Les buts sont quand même beaucoup des cadeaux.
Ouais, des cadeaux hallucinants.
Ben, on reviendra lundi dans notre émission sur Marseille.
Ça y en a à dire.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire.
Si les matchs ne sont pas annulés.
On aura Habib.
Oui, c'est annulé, hein, Saint-Etienne-Marseille, reporté aussi.
Il est reporté.
Il y en a 4 sur 10, et a priori peut-être 10 sur 10.
Oui, peut-être que les matchs de Ligue 1, à cause des mouvements sociaux en France, seront annulés, mais ça ne nous empêchera pas justement de parler de Marseille. Peut-être d'ailleurs que ça leur fera du bien aussi de se retrouver à la commanderie et de réfléchir.
C'est important, ils vont préparer Limassol en Ligue Europa, et ça, c'est important.
Quelle ironie, Karine, de votre part. Qui aime bien châtie bien, c'est ça?
Ah non, là, Rudy Garcia, il y a un moment, il va falloir faire son bilan
faire le bilan de Zubizarreta aussi.
On verra ça.
Le problème, c'est qu'il ne peut pas bosser justement parce que Garcia fait tout.
Ouais, c'est une vision du truc.
Radio Foot International.
Les stades argentins et la Copa Libertadores connaîtra peut-être, qui sait, son vainqueur en fin de semaine pour cette confrontation inédite en finale entre deux clubs argentins et les deux plus populaires de l'Argentine que sont River Plate et Boca Juniors. C'est bien, les animosités ont d'abord gagné, elles ont primé les violences aussi puisqu'elles ont empêché le match retour d'une finale en deux étapes qui aurait donc dû se jouer à Buenos Aires. Résultat, elle se jouera dimanche soir, vous le savez. Les deux équipes ont rendez-vous à Santiago Bernabéu. 81 000 places. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour.
Elles ne sont pas encore toutes vendues, ces places.
Elles sont. Enfin, la revente marche très bien. Disons qu'il y a eu un système de vente assez complexe parce que chaque club a reçu d'un côté 5 000 places pour les vendre en Argentine. Elles ont été majoritairement vendues, mais pas totalement. Il y a plusieurs vols qui ont été affrétés, certains aux couleurs de River, d'autres aux couleurs de Boca.
On les a pas mélangés dans les avions, hein.
Non, on les a pas
plus que dans les rues de Buenos Aires. Mm-hmm.
Et puis, il y a eu beaucoup de ventes au guichet. Il y a eu la vente pour les socios de Real. Il y avait un certain nombre de places. Il y a eu la vente générale. Donc, on va essayer de mettre les supporters les plus chauds derrière les buts opposés. Mais au milieu, il y aura un public assez mélangé.
Il y aura des Espagnols.
Beaucoup de gens qui sont venus de partout en Europe. Il y a beaucoup d'Argentins qui habitent en Espagne. Donc,
Oui. Alors, le match aller s'était déroulé il y a à peu près 3 semaines. C'était dans le quartier de Boca, à la Bombonera. Match très chaud, ambiance très chaude et un score de 2-2. Et là, eh bien, ce match retour va se dérouler sur un terrain neutre. La neutralité peut-elle jouer, influer sur ce match? En tout cas, on va entendre Carlos Tevez, un joueur de Boca Juniors. S'il remercie les Espagnols de l'accueillir, il a aussi quelques états d'âme par rapport à cette finale.
C'est une finale media rara.
C'est une finale un peu bizarre. En tant que joueur, je crois qu'il est important de rester concentré sur le match parce que jouer ici une finale de Libertadores, disputer un River Boca à Madrid, c'est bizarre.
C'est important
de poner un focus sur ce qui va se
passer dans le match. C'est bizarre, Alejandro. Est-ce que ça peut influer? Je sais que vous étiez plutôt partisan que ça se déroule finalement au Monumental, qui était l'endroit logique.
Tout le monde était a priori partisan de cette solution parce qu'il y a un problème d'équité qui est mis en avant par les joueurs de River. Ils disent on a joué le match aller à Boca face à des supporters de Boca, et on joue le match retour à 10 000 km et face à un public mélangé.
Donc, est-ce que pas... le but à l'extérieur peut compter dans ce cas-là?
Non, ça compte pas, justement, c'est le règlement.
Ça compte pas. Donc, en fait, c'est comme si c'était une finale.
La finale de la finale.
C'est bien, en même temps, c'est bien pour le suspense.
Est-ce que ça peut avoir une influence, Naïmoniol?
Évidemment, ils ont joué deux fois à l'extérieur. Donc quand on voit comment le public de Boca a pesé sur l'équipe, sur le mental de l'équipe au match aller, on peut comprendre la frustration des joueurs de River. Ils n'ont pas gagné, c'est sûr. Mais bon, moi, oui, je trouve que c'est dommage. Après, il y a des problèmes de sécurité. On peut pas mettre en danger la vie des gens comme ça.
Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu faire jouer au Monumental avec les supporters? Parce qu'ils ont fait, non? Ça aurait été quoi, un huis clos? On aurait joué à huis clos?
Non, tu peux pas jouer à huis clos.
Qu'est-ce qui serait passé?
Mais les incidents se sont produits dans la rue et la police a reconnu avoir commis des erreurs qui ont permis un bus d'une équipe adverse qui traverse au milieu des supporters d'une autre équipe à Marseille ou en Espagne ou n'importe où.
Ça finit toujours mal.
Il y aurait eu des incidents.
Non, mais l'escorte était quand même très minime. L'escorte policière autour du bus de Boca était très minime. Il y avait quelques motards, simplement.
C'est pas le club de River Plate qui organisait
la sécurité. Mais là, ce qui est incroyable quand même, c'est que l'Europe arrive encore à récupérer le bébé, un beau produit marketing qui va faire de l'argent, qui est en train de monter. Et c'est l'Europe qui le récupère au lieu de jouer ce match en Amérique du Sud.
Mais c'est ça justement.
Parce qu'ils auraient pu trouver peut-être une autre vie en Argentine ou ailleurs.
L'Amérique du Sud est quand même très vaste.
Ça a été accepté pour des raisons financières. Et puis le président Alejandro Dominguez, le président de la Confédération sud-américaine, a dit que ça aurait été plus humiliant pour l'Argentine de faire jouer dans un autre pays d'Amérique du Sud.
Au Brésil, par exemple. Au Uruguay.
Mais du coup, ça lui donne une résonance incroyable. On n'en aura jamais parlé autant. Bon, évidemment, s'il n'y avait pas eu les incidents. Mais bon, s'il y avait un match normal, même si le retour avait eu lieu en Argentine, on n'aura jamais parlé autant. Là, c'est un événement incroyable.
Plus, pratiquement tous les staffs de la FIFA qui sera là, puisqu'ils seront samedi à Paris pour les tirages au sort de la Coupe du Monde féminine. Et ils vont se
Gianni Infantino revient, Alejandro. Ouais, lui qui dit que Madrid est un petit bout d'Amérique du Sud, c'est ça?
Oui, oui. Ouais.
Il y a surtout énormément de médias qui sont, du coup, vous avez raison Eric, motivés. Il y avait plus de 40 caméras hier qui étaient juste à l'entraînement de Boca Juniors dans un des stades autour de Madrid. Ça reste intéressant et fascinant pour vous, Naïm, ce match incroyable entre River et Boca. On sait qu'ils y mettent
évidemment
le cœur.
C'est deux clubs historiques, Boca et River. C'est une compétition, Copa Libertadores, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions chez nous. C'est la dernière qui joue sur deux finales. Puis c'est exotique, on n'a pas l'habitude d'avoir ces compétitions-là chez nous. Donc les voir comme
surtout.
Ça, voilà, les voir en Espagne, Bernabéu qui plus est, Madrid, triple champion d'Europe, ville de football. Donc évidemment que ça a une résonance particulière. Moi je maintiens qu'ils auraient dû jouer au Monumental, mais bon.
C'est
Bruno.
Boca River, c'est la plus grande rivalité au monde, je pense qu'on est tous d'accord.
Ouais, c'est surtout, c'est de là que vient le terme classico.
C'est surtout pour moi le fantasme d'un grand match de football avec une ambiance sud-américaine. Moi, c'est des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai toujours des images de Boca Junior depuis l'âge de 10 ans, 12 ans. C'était ce stade, la Bombonera, c'était ce maillot, les confettis qui tombent sur la pelouse. C'était le football dont je rêvais quand j'étais gamin. Et effectivement, le fait de voir cette double finale, un match aller-retour de ces deux grands clubs, c'était extraordinaire. Et même sans avoir délocalisé le match en Espagne, c'était déjà énorme le match aller. Il y avait un attrait pour, on voyait les entraînements, on voyait tout ça, même d'Europe, on arrivait à suivre tout ça, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais est-ce que justement, ça a un peu gâché la fête?
Mais moi, je trouve que totalement. C'est-à-dire que le Boca River que t'adorais et que tu peux adorer, c'est parce qu'il joue en Argentine, dans les stades, dans les entres de ces deux clubs. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. C'est-à-dire que Boca River à Bernabéu, je pense qu'on peut pas faire plus fake. Enfin, ou n'importe quel autre stade. C'est pas contre Madrid, mais pour moi, ça n'a aucun sens.
Et il y aura énormément d'Argentins dans le stade. Hein.
Non, mais d'accord, sauf que t'as pas envie de voir ça à Madrid. Bernabéu, c'est le stade du Real Madrid. C'est pas du tout là où tu t'attends à voir cette affiche qui est une affiche argentine.
Bon, ben, on le regardera quand même, Karine.
Oui,
pour la beauté du spectacle. Merci à tous d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci beaucoup. Ça a dit Ben Amir, manager général des Comores. Merci aussi à Laurent Salerno, à Pierre Guérin et à demain.